Nous avons le plaisir d'accueillir le père Guy Gilbert. Bonjour mon père.
Bonjour ma fille.
Parler de l'actualité en général, et vous êtes ici donc pour skier depuis 46 ans déjà.
Oui, je suis venu je voulais que les jeunes aillent faire du sport, aillent à la montagne. Alors on a pris François et on a vu un appartement à côté d'ici de Briançon. On est venu, c'est la première fois que je suis venu, et depuis 46 ans, je suis venu. Je vais vous expliquer ça en 2 minutes. Donc, j'étais jeune éducateur spécialisé, et alors là, les jeunes étaient très violents, enfin, buvaient de l'alcool, sautaient par les fenêtres, enfin bon, voilà. Alors laisse-moi te dire que le propriétaire nous a pas renouvelé le contrat. Et puis je suis allé, alors des curés nous ont préparé une maison, enfin, etc., des tas de choses. Puis moi, je me souviens d'un curé, on était à 100 mètres de lui, il disait, les jeunes crient trop fort. Bon, enfin, toujours est-il, c'est que j'ai fait une conférence à Grenoble, et il y avait un type qui était un spécialiste d'une banque, je ne sais pas laquelle, et je lui ai dit, on cherche quelque chose pour... Bon, il m'a dit, moi, j'ai un chalet. Il avait un chalet au Cassé. Il avait un chalet superbe. Il avait rénové pour sa famille. Il avait 4 enfants, je crois. Et puis après, une salle, un dortoir pour les gosses, les copains de sa famille. C'était inespéré. Puis après, faut avoir les couilles en or pour là-bas, parce que c'est 1500 à la semaine, 1500 euros la semaine, et il nous l'offre gratuitement. Ça fait 36 ans que je viens au Cassé et à Montier-les-Bains pour le ski au bord des pistes. Là, c'est superbe. C'est comme ça que je suis venu encore cette année. Je suis venu l'année dernière, mais c'était chiant. Tout était fermé. C'était comme un rat mort au Cassé. Alors, en 36 ans, j'ai connu beaucoup de gens à droite et à gauche. Alors, c'est superbe. Des gens... L'ouverture des gens ici, c'est pas Paris, hein. J'étais 45 ans à Paris, et je dois dire que c'est dingue. On se parle, on devient amis, et non. Montier, surtout, j'aime bien. Et puis, le Cassé, il y a presque pas un chat. Il y a un bar formidable avec Eric, là. On est bien. Donc, les jeunes sont venus, là, quelques jours. C'était superbe. Ils ont pris leurs pieds. Alors, c'est des jeunes qui savent pas faire de ski et qui, au bout de 3 jours, font la noire ou la rouge. Enfin, la noire, ils la font sous les fesses. Et moi, je les ai fait aussi sous les fesses pendant longtemps. Et la rouge, c'est extraordinaire. La vélocité, comment ils ont un sens de l'équilibre, ils vont un peu vite. Hein. Je me souviens au début, d'ailleurs, un jour, j'arrive, je leur apprends à freiner. Bon, première chose. À pas aller trop vite, voilà. Et j'étais à Montgenèvre. Je vois un mec de 15 ans qui était là depuis 3 jours. Il descendait à fond la caisse, une pente forte. Il y avait en bas une grosse bonne femme. Je dis, mon Dieu, pourvu qu'il chope pas cette femme. Et il chope, elle. J'ai vu cette grosse bonne femme rouler sous la piste après. Elle était intacte. Je sais pas. Et puis après, c'était des jeunes qui étaient assez violents, qui étaient intactes. Très violent, enfin, ils le sont aussi, mais différemment. Un jeune voulait passer devant tout le monde. Les gens gueulaient, mais ils gueulaient plus fort, mais comme il était assez costaud, les gens avaient un peu peur. Et puis après, il y avait un chef de piste, là, qui était là. Il engueule, le chef de piste l'engueule, et le mec l'engueule aussi, enfin bon. On finit les skis, et j'étais un peu plus loin, et j'entends le gars, là, qui avait fait chier tout le monde. J'entends le gars qui dit, celui qui fait monter les pentes, qui dit, moi, j'ai envie de te casser la gueule parce que tu m'as contré sans cesse. Mais il dit, c'est pas la peine, je te casse pas la gueule, le curé est là, il va te casser la gueule. Moi, j'entends ça. J'étais à 30 mètres, je m'avance derrière le mec, il me voit pas. Je dis, tu m'appelles, t'as fait chier tout le monde, et tu m'appelles moi pour casser la gueule. Le mec, il dit, je te fous, une droite évangélique dans la gueule, et tu vas fermer ta gueule maintenant, tu vas respecter les gens. Et j'avais déjà un autre tombé, il était sur la file, il tombait. Les 3 minutes, il arrivait, il tombait. Il braillait sa race. Alors les gens disaient, qu'est-ce que vous avez? Oh, je suis fatigué, je suis courbé, j'ai froid, j'ai envie de boire quelque chose. Et il allait boire un café chez Mitraillette, la fameuse Mitraillette de Montgenèvre. Il allait boire. Il avait bu 20 chocolats à midi. Il tombait, la scène, il tombait par terre. Et puis, les gens le ramassaient un peu. Il allait au bar. Et c'est chouette de passer 4-5 jours ici. C'est très, très chouette. Ça va. Et puis moi, à 86 ans, je fais encore un peu de ski. Hein. Mais la piste verte, c'est verte ou rose, comme la petite. Hein. Je fais la piste verte parce que je suis ravi. Et puis, il y a un temps magnifique ici actuellement.
On va donc parler de l'Église sur les hommes qui peuvent être mariés, prêtres. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?
Non, c'est une connerie. Le pape a dit, à un an je crois, regarde, le curé d'ici là, a 20 paroisses. C'est plus possible d'arriver à l'église, 9h05, de sonner des cloches. Il y a, comme public, il y a 20 vieilles taupes, des saintes femmes qui sont là. Et voilà, ils se cassent aussitôt après. Le Seigneur doit s'emmerder dans ces messes-là. C'est lui qui vient. Le pape a suggéré que des hommes mariés soient prêtres. Et moi, je crois que c'est indispensable. Je suis rentré au séminaire, j'avais 13 ans. On m'a parlé du célibat tout de suite. Comment peut-on parler du célibat à un jeune de 13 ans? C'est un stapel derrière au plafond. Voilà. Alors maintenant, si on veut être prêtre, on ne peut pas rentrer au séminaire avant 18 ou 20 ans. Maintenant, je crois que c'est bon. Bon. Des hommes mariés prêtres. On prend un vieux dinosaure, pas trop vieux quand même, de Briançon ou d'ailleurs, lui, qui est chrétien depuis longtemps, et prêtre de la paroisse. Au lieu de multiplier. Moi, je dis que les curés actuellement évangélisent le macadam. Ils sont sur les routes du matin au soir. Il y a ça qui t'appelle. Mais le célibat reste quelque chose de très, très important pour l'église. Mais on l'accepte. On se dit, je veux rester célibataire. J'ai eu des séminaristes qui étaient au séminaire et qui voulaient se marier. Et ben, ils ont quitté le séminaire, évidemment. Que des hommes mariés soient prêtres, ça serait chouette. Et surtout, les femmes. On est comme des musulmans. Elles sont là. Heureusement qu'elles sont là actuellement par petites équipes dans les églises pour garder les églises. Que les femmes soient diacres. C'est ce que le pape a demandé. C'est-à-dire qu'elles baptisent, qu'elles marient et qu'elles prêchent. Je dirais au pape François qu'elles prêchent pas plus de 3 minutes parce que les femmes sont bavardes. Non, mais qu'elle prêche, mais qu'elle marie, qu'elle baptise, c'est un événement considérable. Alors, on ne demande pas que les femmes soient prêtes actuellement, parce que l'Église est tellement lente qu'il faudra au moins attendre 400 ans pour qu'un jour une femme soit prête, je crois. Mais au moins que la femme ait une place beaucoup plus importante dans l'Église. Alors, pour 2 choses, pour gouverner l'Église, c'est que les hommes qui parlent pour le célibat, pour le mariage, c'est que ça, c'est des hommes célibataires et vieux qui parlent de ça. Et que la femme puisse gouverner l'Église, gouverner avec les hommes, évidemment. Et peut-être qu'une femme puisse être cardinale, et ben dis donc, pour faire chier les hauts placés qui sont en robe rouge. Eh bien, se mettant en pantalon rouge pour les emmerder. Ce sera superbe. Ce sera superbe. Mais elles gouverneront l'Église. Et elles enseigneront l'Église. La femme, enfin le chrétien catholique, qui connaît l'Évangile par cœur, je connais des femmes qui sont spécialistes de la théologie, qu'elles puissent parler. Ce serait extraordinaire. Moi, j'ai déjà fait dans la paroisse que j'ai, parce que je suis en Provence avec mes jeunes. J'ai déjà fait parler des femmes dans l'église. C'est chouette. Qu'elles récitent l'évangile et que la place de la femme soit vraiment réelle.
On va passer à une toute autre actualité, la présidentielle et Zemmour. Vous en pensez?
Ils nous font chier avec cette présidentielle, mais c'est obligé comme être quelqu'un. Moi, ce qui me fait chier, c'est d'entendre les gens toujours accusés. Je voudrais tellement que Macron un jour dise ce qu'a dit Marine Le Pen était excellent. Pas son programme, mais ce qu'elle a dit. Et que Marine Le Pen dise, oh, merveilleux. Vous savez, Monsieur Macron a dit une phrase extraordinaire. Ils s'engueulent les uns les autres. L'autre est un connard, un menteur, un arnaqueur, surtout un menteur. Mais quand les jeunes écoutent la radio, eh ben, dis donc, on peut que être violent. Ils se coupent sans cesse les uns les autres. Sans cesse. L'un commence à parler, il est coupé immédiatement. Alors, tu sais, avec Zemmour a foutu une merde incroyable. Il y a des choses. Il a un accent de vérité qui a séduit les Français. Les autres, c'est leur pommade, le machin, le tranquille. Par exemple, pour l'immigration. Trouvez pas correct qu'on s'appelle Mouloud ou Mohamed. Quelqu'un qui arrive d'Algérie garde ses racines, mais ce qu'il faut, c'est qu'il garde ses racines et il prenne les racines françaises. Il a deux choses. Il prend les racines algériennes et les racines françaises. Voilà. Et il démontre, c'est vrai, une petite partie des musulmans disent que c'est la charia qui commande et qu'on allait se faire foutre au niveau des lois de la République. Mais c'est une petite partie. Moi, je vois, j'étais là quand Giscard a décidé que, avant, l'homme venait travailler. Il voyait sa femme une fois tous les deux ans. Il faisait l'amour, évidemment, il avait encore un gosse, mais il ne l'élevait pas. Et Giscard a demandé que la femme vienne. Puis on a ouvert énormément la grand-mère, le grand-père, l'oncle, etc. Alors, faut pas que trop d'étrangers viennent. Voilà. Pour l'Afghanistan, les 40 000 personnes qui sont venues, c'est merveilleux. Et il faut vraiment, alors, que ceux qui n'ont pas le droit de venir, viennent. Des Algériens ou des Maghrébins, ils n'ont pas le droit de venir, ils sont partis, on les a chassés, ils sont venus. Que la personne qui vienne amène en même temps ses bras et son cœur. Je connais bien des immigrés qui n'ont pas le droit de venir, mais qui bossent. C'est un gros problème, ça. Et puis vous, je pense qu'ici, à Briançon, vous vous en chiez beaucoup pour ça. Parce qu'il y a des passages très nombreux, etc. Il y a ceux qui viennent parce qu'ils ont des emmerdes politiques. Il y a ceux qui veulent gagner des sous. Mais moi, je me souviens, j'ai fait la guerre d'Algérie, malheureusement, mais vous voyez, les Algériens revenant avec une valise plein de fringues, plein de trucs, disant, le pauvre type disait que c'était merveilleux d'être en France, mais il savait aussi combien il en a chié, il le disait pas à sa famille, ça, pour gagner l'argent de sa famille. Alors, j'ai connu tout ça. Pas trop d'immigrés. Faut essayer de regarder nos frontières, ça, c'est vrai. Et ne pas penser, alors, Zemmour, lui, c'est il pense que notre religion catholique va être détruite par les musulmans. Il prédit, en prêcheur extraordinaire, que bientôt, ce sera l'islam qui régnera en France comme religion. C'est pas vrai. Acceptez que les musulmans sont musulmans, que les musulmans aussi acceptent que les chrétiens vivent. Moi, je sais que quand un mec, ça m'arrive parfois que des jeunes gens me disent, t'es chrétien, t'iras pas au paradis. J'ai dit, va te faire foutre. tu te mets à la place de Dieu, tu te rends compte ce que tu fais, tu te mets à la place de Dieu pour savoir où j'irai. Le gars termine toujours, que Dieu me pardonne, il a vu qu'il avait fait une connerie. Que les musulmans acceptent qu'on soit chrétien. Que nous, chrétiens, nous acceptons qu'ils soient musulmans. Et nous respecter le respect de la religion de l'autre est une question fondamentale. Respecter que l'autre soit différent.
Et on va parler aussi des violences faites par les jeunes. Elles ont beaucoup changé ces dernières années.
Tu sais, quand je suis arrivé à Paris, j'étais en Algérie. J'étais fait la guerre d'Algérie. J'étais très dur, j'en ai chié énormément. J'ai pas accepté la torture. On m'a mis en prison là-bas, la mère française. Enfin bon. Mais j'ai beaucoup aimé l'Algérie. Et j'ai fini mon séminaire pour être en Algérie pendant 15 ans de... J'ai fait 5 ans de prêtre en Algérie. Et après, je suis venu ici. Je me souviens de choses extraordinaires. Les policiers étaient vaches vis-à-vis des jeunes. Alors, ils étaient en bande, moi j'étais avec eux, j'étais habillé tout à fait normalement, et j'entendais les policiers dire les Arabes, c'était des ratons, les Africains, et c'était de la racaille. Moi, j'en avais marre. Et je dis à un mec qui était amusant avec moi, j'en ai assez, je suis pas un diamant au milieu de la merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit, oh, t'inquiète pas, je te passe mon blouson. Alors, il me passe son blouson, je le prends. Le lendemain, un flic arrive, insulte des mecs bicots, négros, qu'est-ce qu'il fout ici, qu'est-ce qu'il me rend ici, et dit, qu'est-ce que c'est que ce vieux con, en me désignant. Je dis, je t'emmerde, moi. Le flic était cassé. Il dit, je t'amène au commissariat. Tu sais pourquoi? Il m'a dit, parce que tu m'as insulté. J'ai dit, mon pote, tu m'as insulté le premier et moi après. Il m'a dit, on te croira pas. Ah, c'était la logique des flics. Un pauvre mec, on ne le croit pas. Il m'amène au commissariat. Le commissaire me voit et voit le flic. Il dit au flic, mais tu amènes des curés maintenant? Il dit, ça, un curé? Ben, je dis, oui, je suis prêtre. Mes respects, mon père. Je lui réponds, va te faire foutre, mon fils. J'étais à de la racaille tout à l'heure, et maintenant tu me respectes. Tu curé, oui. Je suis pas au-dessus des gens, je suis un mec simple. J'ai envie d'être respecté, et j'ai envie surtout que tu respectes les mecs que tu vois dans la rue. Et j'ai pris un blouson. Oh. Je me souviens quand je suis passé avec Pivot, avec mon bouquin, le premier bouquin, j'ai fait un bouquin il y a 40 ans, un prêtre chez les Loubards. Je reçois 700, il n'y avait pas des mails à ce moment-là, je reçois 703 lettres et je lis toutes les lettres. Et la dernière lettre, c'est une vieille chrétienne qui m'écrit. Elle met Monsieur l'abbé. Et puis elle met mon père. Et elle barre mon père. Et elle met impossible de vous désigner comme mon père. Quand j'ai vu votre tête hirsute avec vos cheveux sales, longs et mal peignés, j'ai difficilement reconnu le si beau visage de Jésus-Christ qui avait des cheveux longs et propres. J'ai répondu immédiatement, merci de votre lettre très amicale, chère madame. Pourriez-vous, vous qui êtes si bien renseigné 2000 ans après, pourriez-vous d'urgence m'envoyer la marque de shampoing qu'utilisait Jésus-Christ? La vieille m'envoie 20 ou 30 francs, et elle m'a envoyé pendant 20 ans 20 ou 30 francs par mois pour mes cheveux. Mais enfin, je pense que elle a vu aussi que elle m'aimait bien comme prêtre. Alors, avec les jeunes, il y a une violence qui est... C'était la violence en bande. Et les jeunes étaient repérés immédiatement, les blousons noirs avec leurs pins sous le bordel, en mode... Alors maintenant, ils sont en survêtement sans cesse, etc. La tête enfouie, enfin... Il y a une violence qui est forte, très forte. On le voit bien. Je pense que les médias ont tort de dire que l'année dernière, en 2021, il y avait 1000 bagnoles de brûlées. Et maintenant, cette année, je crois qu'il y en a 800. je pense pas que ce soit bon d'étaler ça. Parce que les jeunes qui voient ça, eh ben, non, hein. Si l'année dernière il y a eu que 800, il faut en brûler 200 de plus, quoi. On parle trop de violence dans les médias. Qu'on dise les choses, évidemment, qui se passent, mais qu'on dise beaucoup sur la violence des babons. Les hommes politiques qui se battent du matin au soir, qui se dénigrent les uns les autres. Les jeunes dont on voit les méfaits qu'on signale ça. Je pense que parler trop de la violence des jeunes, c'est les pousser à recommencer à faire un peu plus de violence que d'habitude. Dernière chose, je reçois des emails très nombreux, toutes les semaines. Alors une femme m'écrit, c'est souvent des femmes, elle me dit que le jeune fume du shit, veut plus aller à l'école, casse des choses dans sa chambre, frappe sa mère. Les divorces sont très importants. Un jeune sans père, c'est très difficile à vivre. Je pense que le divorce, je respecte que les gens se divorcent s'ils veulent, mais actuellement, quand je vois un couple, je dis toujours, vous êtes divorcé, le couple est divorcé. Comment le sais-tu? Je le sais parce que tous ceux qui viennent, ben évidemment, c'est un problème. Puis après, il y a une habitude de violence qui a été prise, qui les fusées qui, dans les banlieues, tout ça, là. Oh là. On peut dire que la drogue aussi a envahi. Alors là, c'est un problème difficile parce que on n'a pas vu le vent venir. Quand les jeunes fumaient un pétard de temps en temps, moi j'ai connu ça il y a 40 ans, de temps en temps. Mais c'est par centaines de milliers. On a des statistiques qui sont très importantes. Et alors là, la vente. On parle de dépénaliser, voilà. On parle de dépénaliser. Évidemment, ça peut être possible. Mais, quand je vois à la télévision les policiers qui surveillent le week-end, etc., le nombre de gens jeunes qui sont arrêtés, 140 à l'heure, c'est à 90 à l'heure, et puis après ils souffrent dans le machin là. Alors alcool et shit, on aurait dû, il y a, on pouvait pas prévoir ce que ça allait devenir, la drogue. Mais ce marché parallèle est terrible, les jeunes qui s'entretuent ou qu'on tue parce que, alors comment résoudre ça? Les hommes politiques se masturbent l'esprit pour savoir comment, voilà. Mais, faut pas donner de piste exacte. Mais je dis d'abord la piste exacte, c'est que l'enfant avec un père et une mère, le père et moi, je suis le troisième de 15 enfants. Moi, je savais, quand je voyais le vélo de mon père, je commençais à trembler de ma culotte parce que si ma mère répétait le dixième des conneries que j'avais fait, c'est pas dire que, il y avait quelque chose. Il y avait un père qui était avec 15 enfants, il faut vraiment savoir mener la barque, hein. Mais c'était merveilleux, parce qu'il y avait des choses qu'on nous apprenait, le respect. On parlait pas tous à table. On levait la main d'abord. Il y avait toutes sortes de codes. Les jeunes évoluent. C'est normal. Mais ils doivent apprendre le respect. Je vais vous citer un fait précis. Il y a un mec qui arrive, en Provence, dans le lieu de vie que j'ai bâti à 47 ans. Il me dit, je veux qu'on me respecte. Je dis, mais on va te respecter. Mais je dis, respecte les autres. Mais le mec a oublié absolument la deuxième. Respecte les autres. Je monte au dortoir avec eux, les coucher. Et je sais pas quelle réflexion je fais au mec. Va te faire enculer, il me dit. Je te lui découche une droite et ben, j'allique dans la gueule, il est passé par-dessus son lit. J'ai dit, mon pote, tu t'avais demandé. Tu sors de prison. Le juge m'a supplié de te prendre. et tu me traites d'enculé 3 jours après. Le mec passe 6 mois. La juge m'appelait souvent pour me dire, mais comment va-t-il? Comment va Gérard? Non, Michel, comment va-t-il? Je dis, il va bien. Elle était tellement intriguée. Il était au commissariat tous les week-ends. Elle me demande de venir pour le voir. Alors, le mec arrive au tribunal. Et il avait l'habitude de dire à la juge, quand il la voyait, « Tu es une vieille salope. C'est très convivial. » Et à ce moment-là, il lui dit, cette fois-ci, « Mes respects, madame la juge. » La juge, crise cardiaque. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, j'ai dit, voilà. J'ai dit, vous savez, une droite évangélique dans la gueule. Il m'a dit, vous n'avez pas le droit de frapper. Et le mec dit à la juge, vous savez, le curé, malgré son âge, a une bonne vieille droite. C'était superbe. Voilà, il s'en est bien sorti. Et la juge l'avait, il avait fait une dizaine de vols, je sais pas ce qu'il avait fait. Elle a dit, c'est fini, terminé. Je vous dirais que j'étais au tribunal un jour avec lui. La juge lui dit, il avait volé, il volait des motos, énormément de motos. Alors, il y avait une moto de, et les motos Renault, je connais pas bien ça. Alors, il disait, ah oui, ça oui. Moto Renault, ça oui. J'ai pris une moto Peugeot, je sais pas. Alors, il dit, vous avez volé une Peugeot. Jamais, madame la juge, jamais, vous savez. Comment se expliquer? C'était à mourir de rire. Voilà. Mais il était franc. Ce gars-là est maintenant conducteur de camion et a 2 enfants et 13 ans.
On va parler maintenant du Covid.
Je terminerai en parlant de la ferme que j'ai eue. Alors, le Covid, vous savez, depuis le 18 mars, je suis parti de Paris. 18 mars 2020, je suis parti de Paris parce que c'était invivable. Et je suis en Provence, dans mon lieu de vie que j'ai créé il y a 47 ans. Alors, on peut dire qu'une chose est importante, il y a un certain nombre de Parisiens foutent le camp parce qu'ils peuvent supporter la ville. Le Covid, le bruit épouvantable de la ville. J'aimais bien Paris. Quand j'allais à Paris, j'allais dans les gorges du Verdon après, j'ai passé de l'un à l'autre. Je suis revenu à Paris 2 fois pour des motifs religieux et j'étais... Moi qui vis à Paris depuis 45 ans, je ne pouvais plus supporter le bruit. Alors c'est sûr que le Covid nous permet un retour sur nous-mêmes. Essayer de penser à soi. Penser aux autres, c'est difficile puisqu'on a un masque sur la gueule. Ça, c'est on voit que les yeux des gens. Et puis après, il y a toute la diatribe sur ce que fait le pauvre Macron qui nous dit ceci, mettez le masque, pas mettre le masque, enfin tout ça. Je critique pas ça parce que nos gouvernants et même les médecins ne savent pas ce putain de Covid, ce qu'il est, ils savent pas. Enfin, on approche de plus en plus. Ça nous isole les uns les autres. Moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est que les canards vont dans les avenues de Paris. Ah, je trouvais ça, c'est esquis. Oh, les photos, voilà. Et puis, j'ai vu 2 photos qui étaient extraordinaires. 15 jours près, avant le Covid, la brume terrible sur Paris, 15 jours après, plus de brume du tout. La pollution, hein. C'est extraordinaire ça, puisqu'on ne pouvait pas circuler. Il faut être patient, il faut suivre. Je ne vous demande pas si vous êtes vacciné ou pas vacciné, je m'en fous. Moi j'ai fait les 3 piqûres. On est en train de chercher... Une petite partie de la population cherche en disant « Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ?» Moi, je sais que si je suis encore vivant, 86 ans, c'est que... Mais une chose, je dirais, une chose simple. Se protéger soi-même. Mais si on ne veut pas, si on ne veut pas de vaccin, si vous êtes porteur de Covid, vous savez... Les résultats à l'hôpital très graves, et vous pouvez le passer à l'autre. C'est ça le problème. Même étant piqué de 3 piqûres, on peut le passer aux autres. Mais on a beaucoup moins de risques d'hospitalisation grave et la mort, évidemment, après. Pensez à l'autre. pensez à l'autre. Pensez à votre grand-mère, à cette personne à qui vous passez ce putain de truc qui nous emmerde. Pensez à l'autre. Pas la peine de s'engueuler les uns les autres anti-pax, pax. Oh là là, quel bordel. Et puis ça se terminera. Enfin, ça se terminera, j'espère, parce que on pense à la quatrième piqûre, on pense à la cinquième, sixième, et ça, c'est, je pense que on arrivera. Faites tout ce que vous pouvez pour vous protéger et protéger l'autre.
Merci beaucoup.
Je dirais un mot sur le, voilà. Alors, je terminerai en vous disant que un jeune prophète, un jour, me dit, Guy, achète une ruine où tu voudras en France, achète une ruine, on la construira ensemble. C'est un merveilleux prophète. J'ai cherché une ruine dans les gorges du Verdon, et je suis tombé sur une ruine, rien de plus horrible que cette ruine. Et 250 jeunes l'ont rebâti. J'ai amené des jeunes de Paris qui venaient bâtir la ruine. Ça a été leur rêve, c'était quelque chose. Et puis je me suis aperçu que j'avais 5 hectares, et je me suis aperçu, par exemple, les lamas, à un œil magnifique, ils regardaient le lama, mais jamais regardaient notre œil. Ils ont eu tellement de problèmes petits qui détestent l'humain. Mais je les ai vus, avec les bêtes. Comme les mecs me disaient, la bête ne ment pas, ne triche pas, et donne ce qu'on lui a donné. Et j'ai vu dernièrement encore un petit jeune qui est arrivé, qui était insupportable, qui a déjà fait 6 centres. Et il est fou des lapins. Un autre est fou des chèvres. Un autre adore les chameaux. Voilà. Il y a tout. Et je pratique la zoothérapie. Ça fait 47 ans. Et ça fait un bien fou aux jeunes. Ils sont obligés de... Le jeune arrive. Il veut pas travailler. Il veut rien foutre. Mais à cause des bêtes, il va leur donner à manger. Et comme me dit un mec, mais le week-end, les bêtes se démerdent. Ah, je dis, je regrette, tu manges toi aussi le week-end. Et donc, il travaille 365 jours par an, en passant 2 heures par jour pour nourrir les bêtes, etc. Et ça marche bien, très, très, très bien, lui, 47 ans. Voilà, je vais vous dire que aider des jeunes dans la merde, voilà, les aider, les porter. Je terminerai par ça. 3 choses précises. Respecter ce qu'ils sont. Les aimer comme ils sont. Violents, menteurs, pervers. Accepter qu'ils soient comme ça. Leur faire confiance. Et leur permettre d'avoir des outils dans la vie. Des jeunes qui arrivent, on ne leur rien foutre. Pas d'avenir, rien. Et au bout d'un an ou 2 ans, le jeune dit, ah, je veux faire ci, je veux faire ça, etc. Donc, il termine sa classe, et puis, il fait un stage, par exemple. Il y en a un qui adore la culture et qui a 100 vaches maintenant, voilà, mais qui est en stage dans une ferme. Ils veulent des mécaniciens, trouver des gens qui les prennent et les mettent dans la vie. Les aimer comme ils sont. Leur faire confiance. Et leur donner des outils pour demain, pour qu'ils puissent vraiment vivre heureux. C'est tout. C'est très laïque, évidemment. Je suis curé, j'ai lancé ça, mais c'est très laïque. Ces valeurs laïques, profondes, d'accepter l'autre comme il est, de lui faire confiance, et de le mettre en marche pour la vie, ce sont des valeurs laïques merveilleuses. Chrétiennes aussi, mais merveilleuses. Je vous souhaite de les vivre avec vos enfants. Amen.
Merci beaucoup.